Jean.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas. Avec notre productrice Anaïs Sainz. Bonjour Anaïs.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Les GG, rendez les armes. Va falloir sortir vos FAMAS M16 et AK-47 planqués sous le lit. Jusqu'au 2 décembre, les possesseurs d'une arme détenue illégalement sont appelés à la rendre ou à les rendre et de régulariser la situation auprès des points de collecte mis en place par le ministère de l'Intérieur. 300 sites au total en France. Souvent, il s'agit d'héritages, de vieilles armes de famille. Les couteaux, les machettes, les poignards sont aussi acceptés. 2 millions d'armes qui appartenaient à des personnes décédées ne sont pas enregistrés et entre 5 et 6 millions d'armes sont détenues irrégulièrement en France, cette opération du ministère. Alors, les Français vont s'en foutre ou pas, les GG? Thomas?
On s'en fout pas.
On s'en fout pas, Mourad?
Ah, mais je m'en fous, puis j'ai pas tout compris, donc. Non, mais je le dis parce
Mourad,
que j'ai pas.
Moi, je m'en fous.
Bon, Thomas,
je m'en fous pas parce que là.
Parce que t'as des armes chez toi.
Non, j'ai pas d'armes, mais les chiffres que tu nous as donnés, ça fait quand même peur, là.
5 à 6 millions.
Et donc,
quoi,
rien que de savoir ça, je pensais pas qu'il y avait autant d'armes en circulation, donc, non, on s'en fout pas, c'est important de savoir ça, ouais.
Mais est-ce que ceux qui détiennent des armes vont répondre à cet appel?
Pardon, mais quand t'as un fusil, excuse-moi, ouais. Mais moi c'est pas mon cas, mais si c'est un fusil ou qui a été légué par le grand-oncle, le grand-père, est-ce que c'est un problème de garder ça chez
soi? Quand t'habites un peu isolé aussi dans une maison, bon.
Et remarque, l'affaire Ligonnès, c'est comme ça que ça s'est passé. Son père est mort, il a récupéré le fusil, après il a tué toute la famille.
T'as raison, hein. Non mais c'est vrai, c'est sûr que c'est une tentation.
Les GG, vous regardez un match de la Coupe du Monde au Qatar dans un bar, il y a de l'ambiance, des buts, de la bière, et puis d'un coup, plus de télé. Eh bien, c'est peut-être la faute de militants anti-mondial qui s'amusent à éteindre les télévisions dans des bars parisiens à l'aide d'une télécommande pirate. Vous savez, ces télécommandes universelles là qui marchent sur toutes les télés. Il y a même des tutos sur Internet qui vous expliquent comment fabriquer une télécommande brouilleuse d'ondes pour couper, je cite, la diffusion des matchs maudits. On s'en fout, on s'en fout pas?
Moi, je m'en fous pas.
Moi non plus, je m'en fous pas. On s'en fout pas aussi.
Elina?
Alors moi, je m'en fous pas parce que alors là, quand j'ai lu ça, en plus, j'ai vu comment faut faire, bruit. Je me dis, mais c'est quoi ça? Mais pour moi, c'est des ayatollahs, quoi. Je vais te dire, bientôt, ils vont toquer à ma porte et on... Non mais
ils vont couper ta télé, ouais.
Et on marche sur la tête, quoi.
Mourad? Ce qui est insupportable, c'est... Alors, même si on peut... Je ne vais pas défendre l'État du Qatar, mais que des gens décident que leur avis, ils l'imposent aux autres. Voilà. Ils décident que, dès le début, ils ont raison et c'est comme ça qu'il faut faire. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Si j'ai envie de regarder un match de foot, je le regarde, même s'il se passe au Qatar.
Si
toi, tu n'es pas d'accord, je t'emmerde. Voilà, c'est clair.
Et puis si eux n'ont pas envie, ils ne le regardent pas.
Voilà.
Thomas?
Ouais, je trouve ça contre-productif. Autant je pense que l'information, la transparence sur la construction des stades, et dans tous les pays, il faudrait l'avoir, ça, les droits des travailleurs,
etc. Quand c'est le Qatar.
Voilà, exactement. Pas à géométrie variable, sur tous les pays, c'est important, comme ça tu sais. Dans quoi tu t'engages quand tu consommes le produit, mais de là à l'imposer comme ça. Et encore une fois, on reste toujours sur embêter le consommateur, lui imposer un truc. Et je pense que c'est contre-productif. Normalement, la Coupe du Monde, c'est quelque chose de populaire que les gens partagent. C'est bien qu'ils aient de l'information et ils font ça dans leur âme et conscience, mais de là à leur imposer.
Non, mais attends,
ils sont capables
de casser ta télé après. Hein.
Non, mais pendant les bars, ça crée un climat de tension.
Bien sûr,
dans les bars où t'es là, t'es en train de regarder un match, t'es avec des amis, il y a une cinquantaine de personnes, puis t'as un petit malin qui se met à l'écart et qui éteint, donc toi tu rallumes, derrière il éteint encore, tu rallumes.
C'est lui que t'éteins. Hein.
Il prend une gifle,
moi j'irai pas pleurer sur le type qui s'en prendra une.
Et puis moi j'aime bien, je vais pas défendre le Qatar, cette morale sur l'exploitation des travailleurs. Ils ont raison, mais je rappelle, en France il y a aussi une catégorie de travailleurs qui sont surexploités qui s'appellent les stagiaires.
Bien sûr.
Oui.
L'important dans un combat écologique, économique, tout ce que tu veux, c'est de drainer le plus de gens. C'est pas de diviser les gens. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des divisions de plus en plus.
On est dans la radicalité.
Plutôt que d'être dans un combat économique, on est dans un combat de plus en plus moral.
Oui, mais
et là, c'est problématique. Quand c'est la moralité qui prend le dessus, c'est la
problématique. Oui, parce que t'as toujours l'impression que ta morale est plus forte que les autres.
Voilà.
Mais alors, si tu les écoutes, si je me fais l'avocat du diable, ils vont te dire, c'est la seule façon de se faire entendre. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de radicalité dans ce monde, finalement, les médias n'en parlent pas. La preuve, on en parle aujourd'hui.
Ouais. Non,
c'est la même chose.
Ça va finir par des pains dans les bars.
Mais oui, mais c'est ça le problème. Tout le monde en a parlé, mais ils estiment que ce n'est pas suffisant et que le boycott devrait être général.
Ouais, moi, hier au soir, j'ai regardé Brésil-Serbie et leurs stades, ils sont plutôt beaux. Franchement, je suis désolé. Hein. mais ils pètent leur stade, ils sont bah, canons, et en plus on a des supporters, tu as vu, qui sont propres.
Qui se comportent bien.
Qui se comportent bien, quoi, tu vois. Donc là-bas, ils se sentent obligés.
Pas d'alcool.
Ils se sentent obligés aussi, tu vois, d'avoir un comportement vertueux. Mmh. On continue, Anaïs.
Et puis, dans la rubrique, que sont-ils devenus? Quelqu'un a-t-il des nouvelles d'Amélie de Montchalin?
Recasée.
Recasée. Je vous en donne, justement, effectivement, l'ancienne ministre de la fonction publique, battue aux législatives, donc écartée du gouvernement, est devenue ambassadrice, représentante permanente de la France auprès de l'OCDE. Alors après Jean Castex à la RATP, Castaner à la tête du tunnel du Mont-Blanc et du port de Marseille, la belle reconversion là encore d'Amélie de Montchalin.
Et Bourguignon à Ligas.
On s'en fout, on s'en fout pas, Mourad.
S'en fout pas.
Moi je m'en fous pas, hein. Non, pas
moi
du
non
tout.
Plus, on s'en fout pas.
Mourad.
Moi ce qui m'a choqué c'est qu'elle dit j'ai envie de continuer à servir mon pays. Non, t'as juste envie de continuer à être bien payé en foutant pas grand chose.
Ouais.
C'est exactement plutôt. Donc il faut arrêter. Parce que si t'avais envie de continuer à servir ton pays, tu regrettes d'abord si ton pays te le demande. Apparemment t'as été battu, donc ton pays te le demande pas.
Ouais, en fait, il se recase entre copains, c'est trop facile. Castex, bon, le conseil d'administration il dit bon, on va vous mettre à la RATP. Christophe Castaner, n'oublions pas que ces casseroles aux fesses ne sont pas réglées.
Quelles casseroles ?
Si, si. Moi, j'ai lu plein de trucs. les journalistes professionnels, ils doivent savoir, là.
Ce qui est choquant, ce sont des perdants. Moi, c'est ça qui me choque. Pas Castex. Moi, je mettrais Castex. Castex, je ne le mettrais pas dans la même bande, si j'ose dire, parce que Castex, il a fait son temps à Matignon, et puis il a le droit de travailler, il est haut fonctionnaire, à la tête de
l'ARTP. Il y a d'autres gens aussi compétents que lui, hein.
Bah oui, mais il n'est pas incompétent non plus, il est haut fonctionnaire, il a été formé pour ça. Elina, toi, tu ne seras pas président de l'ARTP, moi non plus.
Pendant deux ans, je ne suis pas sûr qu'il ait pris le métro tous les jours.
Lui qui le soit, ça me semble pas complètement illogique. En revanche, ce qui est un peu le message qu'on envoie, c'est vous perdez. Parce que c'est ça, Amélie Montchalin a perdu une élection, sinon elle serait ministre.
Christophe Castaner
a perdu. Vous perdez, mais c'est qui perd gagne. C'est-à-dire, on vous recase et on vous recase à des postes. Vous êtes même mieux payé que ce poste-là, c'est 10 000 euros net, je crois. Donc c'est mieux qu'un ministre. Donc c'est ça qui est, c'est le message qu'on envoie qui est pas bon.
Ouais, et puis que la politique normalement c'est un moment la politique.
Oui, on
fait chose. Élire, ça c'est pas un métier.
C'est pas
là, en fait, on voit
en
bien
plus, c'est des gens qui nous disent qu'il faut être agile, souple, changer de métier.
Et que pour eux, la politique,
c'est pas parce qu'il est GG. C'est pas parce qu'il est GG, mais comment il s'appelle le GG là
Paris.
Ouais, ben lui, bravo.
Et en plus, c'était un bon ministre. Il a cherché son trou.
Un excellent ministre.
Voilà, et eux, je pense qu'ils ont tout à fait les diplômes.
On fait pas de la politique pour avoir une carrière professionnelle. Et là, la
mais malheureusement, c'est un peu devenu ça.
Et là, c'est problématique.
C'est le biftec.
Voilà, tout à fait. Nous sommes d'accord.